zone buissonnière. Oui. Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.
Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue dans Les ondes buissonnières, votre émission de pépites sonores sélectionnée par la rédaction. Aujourd'hui, nous diffusons un nouvel épisode de Parentalité Mon Amour, un programme de Radio Méga. Et pour ce numéro, le jeu est au centre des interrogations. Quelles sont ses origines? Quelle est l'importance du jeu avec les enfants? Quelle place tient-il dans nos vies? Le tout présenté par Bastien Hénard. Bonne écoute!
Avant, j'avais des principes. Maintenant, j'ai des enfants.
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille, en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26. Parentalité Mon Amour, une émission présentée par Bastien Hénard.
Le jeu est présent chez un grand nombre d'espèces vivantes. Les dauphins et les loups ont même des systèmes de jeu élaborés. L'être humain n'est bien sûr pas en reste quand il s'agit de jouer. Dès le plus jeune âge, les interactions avec l'autre par le jeu sont nombreuses. Maintenant, si l'on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que jouer est une activité qui remonte au début de l'humanité. Nous sommes donc en présence d'un sujet central. Jouer a des répercussions sur notre développement, nos interactions sociales, nos vies. Le festival du jeu de Valence s'est achevé dimanche dernier, une manifestation très fréquentée, une occasion de découvrir ou de redécouvrir toutes sortes de jeux. Qu'est-ce que le public vient chercher sur ce festival? Comment le jeu participe au développement de l'enfant? Comment et quand jouer avec ses enfants? La pratique des jeux traditionnels a-t-elle souffert de l'arrivée du numérique? Pour échanger sur ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Yves Vaquet, directeur de la MJC du Grand Charan. Il va arriver dans quelques minutes. Émilie Vidal, accueillante à Bateau-Bulle à Nyons et à Buis-les-Baronnies, est psychologue clinicienne. Et Céline Jacquemont, accueillante elle aussi à Bateau-Bulle et directrice du multi-accueil à Buis-les-Baronnies. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Merci d'être ici à nos micros et d'avoir fait la route. Le portrait du jour sera celui de Nadège Bontou, directrice de la ludothèque de Valence, le Colimaçon. L'agenda des structures sera présenté en fin d'émission par Agnès Bonin de l'UDAF 26. Bonjour Agnès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Je vous propose de commencer cette émission avec des paroles de parents recueillies dans Valence. Ils nous parlent de jeu, bien évidemment, avec cette première question, à quel type de jeu jouez-vous avec vos enfants?
On fait des batailles de guilis, on fait des jeux de société, de temps en temps un peu de jeux vidéo.
Je joue aux jeux de cartes, jeux de cette famille, et jeux de société.
Beaucoup de jeux de société, Lego, oui, par exemple, et tous les jeux de construction, je sais pas, ils ont pas mal, les Kapla ou des trucs comme ça.
Essentiellement des jeux de société.
Alors avec mes enfants, on joue souvent aux cartes, jeux de plateau aussi, ça nous arrive, et puis après des petits jeux de rôle, j'aime bien.
Qu'est-ce que le jeu apporte à votre famille?
Du rire, des temps partagés ensemble.
Et ben c'est un moment convivial où on se retrouve, on rigole, donc c'est vraiment des bons moments où tout le monde se détend et on relâche un peu.
Ça apporte le bonheur, la joie, le temps qu'on passe ensemble, c'est sympa.
C'est un moment où on est tous à égalité. Il n'y a plus de parents, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de position. On est tous soit dans un jeu collaboratif, tous ensemble contre le temps ou ce genre de choses, soit on est tous les uns contre les autres.
Ben, à notre famille, ça apporte beaucoup de convivialité, ça apprend aussi le respect des règles, attendre son tour. Respecter l'autre, je trouve que ça apporte de belles valeurs.
Le jeu aujourd'hui dans Parentalité Mon Amour, Céline et Émilie de Bateau-Bulle à Nyons, qui est un lieu d'accueil parents-enfants. Je vais vous faire réagir un petit peu à ce micro-trottoir, à ce que vous avez entendu. Il y a beaucoup de mots, hein, il y a beaucoup de choses, c'est assez intense. Céline, peut-être à vous quelques mots sur ce micro-trottoir.
Alors moi j'ai adoré la bataille de Gilly et je trouve que
elle est pas mal celle-là.
Je trouve que c'est très intéressant de voir que les familles parlent beaucoup des jeux de société qui peuvent faire en famille, mais aussi ils inventent plein de choses. Tout peut être jeu et prétexte au jeu, que ce soit des jeux de langage, des jeux corporels, des jeux imaginaires. Et j'ai bien aimé la grande diversité qui nous a été exprimée là.
C'est ça la diversité. Émilie, peut-être aussi cette diversité du coup.
Alors la diversité, et puis c'est vrai que la question du plaisir qui est très importante, et la création comme d'une bulle intime dans la sphère familiale à un moment où on se retrouve. Les parents aussi ont parlé de détente. Voilà, je pense que la question du plaisir dans le jeu, elle est primordiale.
On va en parler de ce plaisir et du jeu pendant toute cette émission. Je salue Yves Vaquet qui est arrivé. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Et merci d'être avec nous, directeur de la MJC Grand Charan. On verra avec vous tout à l'heure votre avis sur le jeu, mais vous êtes avec nous et vous pouvez réagir, bien entendu, pendant cette émission. Pour commencer, je voulais savoir, Céline et Émilie, et particulièrement je vais m'adresser à Céline, de nous expliquer en quelques mots comment fonctionne votre lieu d'accueil enfants-parents Bateau-Bulle.
Alors, Bateau-Bulle, c'est un lieu d'accueil enfants-parents, comme vous l'avez dit, qui s'adresse aux enfants de moins de 4 ans, accompagnés de leurs parents ou d'un adulte tutélaire qui les accompagne. C'est un lieu où on vient se rencontrer, où on vient jouer, bien sûr, mais rencontrer l'autre, découvrir un espace où sont disposés différents espaces de jeu. L'idée, c'est d'apprendre à se séparer en douceur, même si les parents restent toujours présents, mais c'est une ouverture sur un peu la société et autre chose que la maison. Les familles viennent souvent très disponibles, donc vraiment viennent jouer avec leurs enfants. C'est un temps qu'elles s'accordent pour en dehors de la maison pour jouer et prendre le temps avec leurs enfants.
Elles viennent jouer. Quel type de jeu justement vous proposez à ces familles qui viennent à Bateau-Bulle?
Alors nous, on, je dirais pas qu'on propose, je dirais qu'on pense un espace propice au jeu et on dispose justement, on a réfléchi en équipe l'aménagement de l'espace et l'idée c'est d'installer un espace qui soit support aux échanges entre enfants, bien sûr, aux échanges entre enfants et le parent et aux échanges aussi entre parents. Donc il y a différents jeux, il y a des espaces classiques qu'on imagine pour les moins de 4 ans avec un espace dinette, des cabanes, des jeux moteurs, mais aussi beaucoup de jeux de manipulation. Je pense par exemple au sable magique qui est un très bon médiateur pour échanger entre parents, par exemple, de faire à la fois avec son enfant, mais aussi en groupe, collectivement.
Est-ce que, alors vous êtes accueillante dans ce lieu, Émilie, est-ce que vous accompagnez les parents dans les jeux avec leurs enfants?
Alors on est là à disposition des parents et des enfants. On peut peut-être pas dire vraiment qu'on les accompagne, c'est-à-dire que il nous arrive de jouer avec les enfants, mais on est quand même dans une position un peu de recul. Mais bien sûr qu'on est disponible pour les enfants et les parents. Et la parole dans ce lieu d'accueil, elle est très importante. Il y a une centration de la parole sur l'enfant, et la parole, elle peut être justement autour des jeux.
Est-ce que il y a des enfants qui ne jouent pas, et est-ce que derrière ça, ça révèle quelque chose, alors problématique ou pas, hein, mais est-ce qu'il y a des enfants qui ne jouent pas?
Alors ça arrive, en effet il y a eu des situations où on a observé des petits enfants qui étaient en grande difficulté dans le jeu, donc nous on est là peut-être pour parler, pour sécuriser et en dire quelque chose à l'enfant et parfois aux parents. Ça peut arriver que ces enfants-là fréquentent très souvent le lieu et du coup il y a quelque chose souvent qui peut se dénouer dans ces moments-là.
Est-ce que pour aller plus loin, il y a des familles dans lesquelles on ne joue pas?
Je pense qu'en effet, il y a des familles dans lesquelles on joue très peu. Après, pas du tout, je pense pas, parce que le jeu, c'est très large. En fait, il y a tellement de façons de jouer. Alors, il y a des parents, pardon, qui sont peut-être plutôt dans l'observation et moins dans l'interaction avec leurs enfants. Mais le jeu, il peut passer par tellement de choses. Ça peut être, des jeux autour de la parole, du chant. Donc, il y a des familles dans lesquelles le jeu est compliqué parce qu'il n'y a pas peut-être beaucoup de souplesse aussi à l'intérieur des parents. Enfin,
Alors le jeu est à beaucoup d'endroits, oui. je voulais juste étendre un petit peu ça. Est-ce que, par exemple, faire de la pâtisserie, même aider ses parents dans les tâches ménagères, oui. est-ce que cela peut être perçu comme du jeu, par
Bien
exemple
sûr, c'est un jeu d'imitation, d'identification aux parents, et les enfants, ils vont transformer à travers leur jeu ces moments-là. Et donc ça, c'est primordial, ces petits temps-là que les parents accordent aux enfants. Et en fait, les enfants, ils jouent sans arrêt, quoi.
C'est ça, ils sont toujours dans le jeu.
Et dès tout petit.
Céline, entre parents et enfants, est-ce que le jeu peut être perçu différemment ? On va aller un peu plus loin, mais selon les cultures. Selon les cultures des parents, est-ce qu'on perçoit différemment le jeu ? Alors, ça peut être Céline ou Émilie, mais peut-être un avis de chacune.
Ce qui est sûr, c'est que le jouer avec son enfant, pour on l'a entendu là dans le micro-trottoir, pour la plupart des familles, c'est assez assez spontané et assez facile, que ça soit dans le cadre d'un jeu de société ou dans un cadre plus au niveau du langage ou d'autres des jeux un peu plus symboliques. Mais pour un adulte, jouer, c'est aussi se mettre en position un peu enfantine et c'est pas forcément facile non plus. Et il y a peut-être des cultures ou en tout cas des familles où c'est difficile de se mettre à la hauteur de l'enfant et de jouer réellement, que ce soit au Playmobil, de jouer pleinement, de s'abandonner au jeu. Mais le jeu peut être, la place de l'adulte peut être un petit peu différente. On peut, Émilie a commencé à le dire, mais l'adulte peut être en présence discrète, en se laisser un peu, peut être disponible et se laisser emporter dans le jeu de l'enfant, juste par sa propre présence. Moi, j'aime bien me dire que l'adulte est un invité dans le jeu de l'enfant. Donc, quand un enfant nous offre un café pour jouer ou des choses comme ça, se laisser embarquer dans l'imaginaire de l'enfant, c'est jouer avec lui. Donc, je crois que dans toute culture, il y a des moments, des interstices où l'adulte joue sans en avoir l'air ou sans s'en rendre compte.
À partir de quel âge, alors on va voir avec toutes les deux, à partir de quel âge on peut jouer avec son enfant ? Est-ce que c'est dès la naissance ? Et comment on fait dans les plus jeunes âges de l'enfance pour jouer avec son enfant, Émilie ?
Alors je ne sais pas comment on fait, ça je ne pourrais pas répondre, mais je pense que tout petit, l'enfant commence à jouer avec sa bouche. Ça, on le sait bien, il met des objets à la bouche, pardon. Il commence à faire des vocalises, etc. Et là, dès les premiers mois, les parents peuvent jouer avec leurs enfants, peuvent peut-être, je sais pas, alors moi, ce qui me vient, c'est la question de la voix quand ils sont tout petits, mais les parents, ils le font bien pendant des temps de change. Il y a des échanges, des interactions assez incroyables où il y a des jeux qui se mettent en place dès les premiers tout premiers mois. Enfin.
Dès les tout petits, en oui, fait. Oui. Céline, vous les accueillez ? Oui. C'est tout petit, en fait. À partir de quel âge vous accueillez ?
À partir de 2 mois et demi.
2 mois et demi, voilà, au moins c'est clair. Donc ils peuvent interagir avec d'autres, là, déjà.
Au lieu d'accueil enfant-parent, il nous arrive d'accueillir des enfants tout petits, encore oui. Même plus petits,
une
parfois
semaine,
de quelques
jours.
Ouais.
Et on vient dans ce lieu où on partage et peut-être où on sort de chez soi, pour le parent j'entends, on sort de chez soi avec son enfant et ça doit faire du bien, j'imagine.
Oui,
oui, les familles l'expriment comme ça, c'est-à-dire qu'à la maison, souvent les familles expriment qu'elles sont prises par les tâches quotidiennes, tout ce qu'il y a à faire dans une maison, et que ce lieu bateau-bulle, comme on peut laisser la vaisselle, on peut laisser le linge de côté et être pleinement disponible à son enfant. Après, c'est pas toujours facile non plus, hein. Quelquefois c'est presque culpabilisant pour les parents d'être là juste pour jouer avec son enfant, mais souvent les familles l'expriment comme une parenthèse, un peu une bulle où ils peuvent se retrouver ensemble.
Quelle est la place dans notre société finalement de l'ennui, parce qu'on parle beaucoup de jeux, on parle d'activité, des fois c'est de la suractivité, hein, quand on fait un cours de violon à 14h, un cours de volleyball à 15 et un cours d'escrime à 18, ça paraît beaucoup et je pense qu'il y en a qui font comme ça. Quelle est la place de l'ennui et est-ce que c'est une composante aussi du développement de l'enfant ? On sort du jeu, on s'ennuie. Céline. Céline, non, c'est Émilie, pardon, mais voilà, je m'embrouille. Mais je joue un peu avec
vous.
Alors, voilà,
en effet, peut-être qu'aujourd'hui, la place de l'ennui, elle est, comment dire, il y a peu de place pour l'ennui, hein, comme vous le dites très bien. Les enfants, ils sont submergés par des activités et on remplit beaucoup les vides. Il y a aussi la question du virtuel qui est très présente. Mais l'ennui, en effet, c'est primordial pour les enfants, puisque c'est là, c'est dans ces moments-là qu'ils vont être très créatifs, eux. Et du coup, peut-être pouvoir rêver, pouvoir penser ou créer des jeux de manière spontanée avec rien en fait. Ils peuvent jouer avec tous ces petits enfants, parfois avec des fils électriques sur des chantiers, je dis n'importe quoi, je sais pas, avec des petites cuillère, tout est possible. Donc oui, l'ennui, c'est vrai que ce serait à cultiver.
Ce serait à cultiver. Ouais. Ça peut faire peur. J'imagine à certains parents, cette phrase peut faire peur même. L'ennui peut faire peur parce que ça veut dire rien faire, c'est ça. Hein,
ne rien faire.
Ne rien faire.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Je sais pas. Certainement, oui encore.
Mais c'est de moins en moins possible.
Bah, il me semble, oui.
Difficile d'être dans cette société qui va très très vite et qui nous permet même pas de s'ennuyer. Est-ce que vous pensez qu'il faut privilégier les jeux éducatifs? Et je sais que là-dessus vous allez certainement me répondre pour l'autre partie de la question, c'est-à-dire où laisser les enfants jouer à leur guise. Je pense qu'on est plus sur cette deuxième partie de question à bateau bulle, Céline peut-être.
Oui, bien sûr. En fait, le jeu éducatif, il est éducatif parce qu'on pose ce mot éducatif et qu'on a des attentes vis-à-vis de ce jeu. Mais en fait, du côté de l'enfant, tout est jeu et il n'a que faire de ses idées éducatives. En fait, il joue tout simplement parce que, comme le jeu est fondamental pour lui, c'est sa manière d'interagir avec le monde. Donc vraiment, tout est jeu et le jeu éducatif, il n'est éducatif que pour nous. Et on voit que quand les jeux sont trop complexes ou quand il y a trop d'attentes, les enfants vont jouer sur un à côté. Ils vont peut-être jouer avec l'emballage parce que là, c'est au moins simple. Il y a une simplicité aussi ils savent comment faire, comment jouer avec un carton, beaucoup plus qu'avec un jeu où il y aurait des directives ou une volonté éducative. Je ne sais pas si je suis très claire.
Non, c'est assez clair, mais ça me rappelle quelque chose, certaines paroles des anciens en fait qui disaient nous on jouait avec une orange, alors c'est à gros traits, on va dire que c'est cliché, mais nous on jouait avec un orange quand on était petit, moi on me l'a déjà dit en tout cas dans ma famille, et je pense dans beaucoup de familles, on jouait avec un carton, on dit carton aussi, aujourd'hui c'est surabondance. Et on a beaucoup de jeux, donc effectivement, est-ce qu'il faut revenir? Je pense que peut-être le pas en arrière est plus possible, Céline.
Après, je ne sais pas s'il faut revenir en arrière, pas forcément, mais il ne faut pas oublier le jeu du carton, qui est aussi fondamental, et jouer avec une boîte cachée, trouvée, c'est tout simple pour les tout-petits, et pourtant c'est fondamental, plus qu'un jeu éducatif. En tout cas, l'enfant, ce qui peut être intéressant, c'est de se baser sur ce qu'on observe sur l'enfant, et son envie et son développement à lui, sans avoir trop d'attentes ou de projections d'adultes.
On va terminer avec une dernière question. Est-ce que vous proposez, est-ce qu'on vous a demandé, des parents, de proposer plus de choses à bateau bulle, et des parents un peu frustrés par l'absence peut-être du trop chez vous? Émilie.
Oui, alors c'est arrivé qu'on nous demande si on animait des activités. Donc nous, en tant qu'accueillants, on n'est pas là pour animer. Mais finalement, non, on n'observe pas vraiment de frustration parce que il y a quand même pas mal de jeux à disposition avec des règles quand même qui structurent le lieu. Et en fait, il y a plein d'interactions. Les parents sont aussi là pour que leurs enfants rencontrent d'autres enfants. Et du coup, je sais pas, il semble qu'il y a tellement de choses qui se passent, c'est suffisant, semble-t-il. Enfin,
on imagine.
Oui, on imagine.
Merci à toutes les deux. Vous restez avec nous, bien entendu, parce que j'ai vu Yves Vaquet, notre deuxième invité, noter pas mal de choses pendant que vous parliez. Il y aura peut-être interaction entre vous deux, un jeu de micro ici, à Radio Méga, avec le deuxième invité. Pour l'heure, je vous propose d'écouter un morceau rentré récemment dans la playlist de Radio Méga. Il s'agit de Change, du groupe Big Thief, morceau issu de leur dernier album. Alors, il est long, le nom de l'album, c'est Dragon New Warm Mountain, I Believe in You. Okay.
change like the wind, like the water, like skin. Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry, while everything you know passes? Death like a door to a place we've never been before. Death like space, the deep sea, a suitcase. Would you stare forever at the sun? Never watch the moon rising. Would you walk forever in the light to never learn the secret of the quiet night? A stone, like a hill, like home. Still, what I find is you are always on my mind. Could I feel happy for you? Her like we used to. Could I set everything free when I watch you holding her the way you once held me? Change like the sky, like the leaves, like a butterfly. Death like a door to a place we've never been before. Would you live forever, never die, while everything around passes? Would you smile forever, never cry?
Parentalité Mon Amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Et un magazine produit par Radio Méga et diffusé sur RDIWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Royan et Radio Soleil FM. Aujourd'hui, nous parlons de jeux et je vous propose d'écouter le portrait du jour réalisé au début du mois de mars, non loin d'ici.
Le Le choix, en fait, c'est un choix qui s'est fait de façon progressive. Hein. Ça a été un cheminement suite à mon congé parental. Moi, j'ai une formation scolaire plutôt commerce. Et puis ensuite, suite à mon congé parental, j'ai pu découvrir déjà le monde associatif. Je me suis investie dans les associations de mon quartier, au Grand Charent.
Nadège Bontou, coordinatrice de la ludothèque de Valence, le Colimaçon.
Je me suis aussi investie dans le jeu, puisque mon mari a fondé en 1998 l'association Katunga, qui est actuellement à la MJC du Grand Charent. Et du coup, je me suis investie dans cette association pour proposer des conventions de jeu, des choses qui se faisaient très peu à l'époque. Et puis, petit à petit, qui ont débouché en 2005 sur un festival du jeu à la MJC du Grand Charent, puis ensuite le premier festival du jeu en 2006, où je me suis beaucoup impliquée, le festival du jeu de Valence. Bon, le jeu, je l'ai toujours porté, en fait, hein, mais c'est vrai que travailler à la base dans une ludothèque, c'était pas du tout un projet professionnel, mais il est arrivé que la ludothèque du quartier du Grand Charent, qui s'appelait donc à l'époque l'Enfant et le Jeu, qui était en dessous de la halte garderie, était dans un moment très difficile, puisqu'elle n'avait plus de ressources et plus non plus de personnes, de bénévoles qui s'investissaient de manière permanente. Donc il y a eu un coup de, une vraie volonté de la part des acteurs du quartier du Grand Charent de vouloir redonner un coup à cette ludothèque. Et moi, en congé parental, je pouvais bénéficier d'un contrat aidé. Ce qui fait que du coup, j'ai postulé pour ce travail qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier.
Quel était votre rapport au jeu enfant et est-ce que vous jouiez avec vos parents?
Alors, je jouais avec mes parents, mais plus avec mes grands-parents et avec ma tante. On avait des soirées famille où on jouait à la belote. Et ça, c'était vraiment des grands moments. On jouait au Scrabble aussi avec ma grand-mère, énormément. C'était des moments extrêmement structurants. Je prenais un plaisir incroyable à jouer. Et c'est vrai que je pense que c'est pas étranger au fait que maintenant, j'ai tellement envie de m'impliquer justement à transmettre tout le plaisir et toutes les souvenirs que j'ai pu accumuler de ces jeux enfants en famille. Et je pense que c'est des moments... Alors, les jeux n'étaient pas développés autant que maintenant. Et maintenant, il existe heureusement un tel panel de jeux qu'il y a forcément un jeu qui correspond à un plaisir partagé en famille.
Alors, à la ludothèque, les parents jouent-ils avec leurs enfants ou ils sont un peu plus en retrait?
Ça dépend des familles. Il y en a qui viennent un petit peu dans l'idée aussi de... d'avoir un petit temps de répit en se disant voilà, il va jouer et je vais pouvoir me poser. Et il y en a qui viennent jouer avec leur enfant. Maintenant, nous, la façon dont le fonctionnement, en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment jouer avec son enfant. On n'est pas organisé pour ces temps de répit, donc on va toujours inciter les parents à s'impliquer, en fait. On va faire en sorte qu'ils s'y impliquent en cherchant un jeu qui va correspondre à un plaisir partagé et casser l'idée que quand on va jouer à un jeu avec son enfant, c'est forcément pour faire plaisir à son enfant, c'est forcément que nous, on va s'ennuyer derrière.
Qu'est-ce que le jeu apporte à la famille ?
Disons qu'en fait, ce sont des moments qui sont précieux pour les familles parce qu'ils sont rares. C'est-à-dire que le jeu est le contraire, en fait, de la réalité. Et en famille, on est vraiment toujours quasiment dans une réalité, un quotidien. On va avoir chacun ses activités un petit peu de son côté et on aura peu de temps où on va pouvoir un peu sortir de cette réalité et de son quotidien. Et pourtant, le jeu, c'est ce qui va permettre de renforcer les liens entre les parents et les enfants et de créer justement ces souvenirs ensemble.
Qu'est-ce que le jeu, de manière générale, apporte au développement de l'enfant ?
Il permet en fait le développement de l'enfant. Il le permet, il le favorise. Un enfant qui ne joue pas, c'est un enfant qui ne se développe pas, qui se développe mal. Il va permettre à différents stades de la vie de l'enfant un développement moteur, développer sa créativité, son imaginaire, pouvoir rejouer des scènes dans le cadre de jeux de rôle ou de jeux symboliques. C'est aussi une façon, c'est une forme de catharsis qui va permettre de faire sortir des moments qui ont été difficiles ou alors des moments de plaisir. Ce sont des éléments extrêmement structurants pour le développement du jeune enfant, mais ensuite aussi tout au long de la vie, et notamment dans le développement de compétences sociales, de compétences, tout ce qui va être autour de la logico-mathématique, autour d'autres types d'apprentissage, hein, puisque en fait le jeu... Là, pour le coup, c'est vraiment un peu un cheval de bataille, je dirais, de la ludothèque. Hein. Nous, on adopte la vision de la charte des ludothèques, hein, qui consiste à dire que le jeu développe des effets, mais des effets induits, hein, des compétences induites, et que le jeu, tout ce qui est étiqueté jeu éducatif et jeu pédagogique, n'a pas lieu d'être, puisque le jeu en lui-même porte de l'éducatif et de la pédagogie.
Quelles sont les tranches d'âge qui fréquentent la ludothèque ?
On va avoir des familles essentiellement et des familles avec des enfants qui ont de 0 à 10 ans, 8-10 ans. Ça va être le gros de la tranche d'âge. Ensuite, on a aussi des jeunes adultes et des adolescents. La grosse tranche d'âge reste quand même le 0, oui, le 0-6, puisqu'on propose aussi des ateliers tout à la parentalité les matins et parfois aussi certains après-midi. Donc du coup, ça va être vraiment le 0-6 en famille.
Allez, je vais faire réagir mes invités, réagir mes invités à ce portrait de la directrice de la ludothèque Le Colimaçon à Valence. Je vais voir avec Yves Vaquet, peut-être, je vous ai vu noter pas mal de choses.
Oui, enfin, il y a deux éléments qui sont intéressants. Bon, il y a le petit rappel historique de Nadège par rapport à la ludothèque, puisque la ludothèque était issue aussi d'un travail par la MGC qui avait aidé à la créer. Et quand il y a eu cette baisse de pratiques associatives autour de la ludothèque, la MJ s'était mobilisée avec la halte garderie pour que ça se maintienne, effectivement. Et c'est vrai que ce que disait Nadège aussi, avec les conventions autour du jeu et les associations ludiques accueillies à la MJC, donc Katunga, qui avait été créée à cette période-là, on y reviendra après, mais ce sont les acteurs aussi de base de la mise en place du Festival du Jeu de Valence.
Ce festival, on va revenir dessus, voilà, parce qu'il vient de s'achever, je l'ai dit en introduction de cette émission, Parentalité Mon Amour, et je vais me tourner vers mes deux autres invités. Céline, peut-être, je vous ai vu aussi noter pas mal de choses lors de ce portrait. Qu'est-ce qui a attiré votre attention ?
Moi, j'ai retenu dans le portrait quand elle exprimait le fait d'avoir joué avec ses tantes, les grands-parents. Ça m'a fait penser qu'il y a quelques parents souvent qui ont une forme de culpabilité de pas passer assez de temps avec leurs enfants pour jouer. Et en fait, si on part du postulat que tout est jeu pour l'enfant, il y a aussi énormément d'occasions de jouer avec une disponibilité quelquefois des membres de la famille autour ou d'autres adultes. Et de se dire que l'enfant joue de toute façon avec ses parents, mais aussi c'est le plaisir de transmettre qu'elle a évoqué, le plaisir partagé, il est avec d'autres adultes autour, et ça c'est intéressant. Et
merci de le souligner. Émilie, peut-être une petite réaction à ce que vous avez entendu là.
Oui, non, je reprends ce que vous disiez tout à l'heure. Vous disiez que finalement, au quotidien, dans les moments du quotidien, il y a déjà des jeux qui s'installent entre les parents et leurs enfants, même s'ils n'ont pas forcément la sensation de jouer, c'est pas un temps dédié à ça, ces petits temps-là, ils sont aussi précieux et source de plaisir parfois.
Effectivement, et on va reparler de ces temps précieux, ces temps de jeu, et finalement ce jeu qui est partout, on l'a vu au début de cette émission, on l'a dit, quelle que soit l'espèce vivante sur cette planète, ou quelle que soit la date à laquelle on remonte, le jeu est là, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui avec mes invités. Et je vous propose pour l'heure d'aller faire un petit tour du côté de la musique, et on va écouter donc Schizo Eye Out par Jawar. Thank you. Parentalité, mon amour, une émission produite par Radio Méga et diffusée sur RDWA, Radio Saint-Ferréol, Radio Royan et Radio Soleil FM. Nous parlons aujourd'hui de jeux et je vous propose de retourner dans les rues de Valence. Pour commencer, j'ai demandé aux personnes rencontrées deux exemples de jeux.
On a un jeu qui s'appelle Galapagos, non, c'est pas ça? C'est ça, hein, les îles Galapagos, où on part en survie et on doit monter sur un radeau et soit on joue seul, en essayant de quitter l'île tout seul, soit on joue collectif et on essaye d'emmener tout le monde.
Le Jumanji, c'est trop bien. Et le jeu des licornes, les nuages des licornes.
Les cartes, on a acheté une au junior, il adore. Comme ça, comme mes enfants sont encore en maternelle et ils ne connaissent pas très bien encore les chiffres, mais par exemple, une au junior, c'est avec les animaux, comme ça ils... Ça vient de la différence.
On aime beaucoup le jeu, un jeu qui s'appelle Seven Wonders, qui est un jeu fait par Antoine Boza. Et qu'est-ce qu'on aime bien encore? Et un jeu qui s'appelle Magic Maze, qui est un jeu collaboratif.
On joue au Trial Pursuit Junior en ce moment, et puis on joue à un jeu qui s'appelle le Double.
Et quelle place accordez-vous au jeu face aux écrans?
Alors c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour essayer de diminuer le temps d'écran, de trouver une alternative qui donne envie de faire autre chose. Et souvent ça marche bien, parce que jouer ensemble finalement c'est ce que les enfants préfèrent.
Grosse question. Je préfère les jeux, mais par manque de temps, parfois les écrans c'est bien pratique. Voilà.
Écran c'est limité. Mes enfants ils ont 3 et 4 ans. Normalement, on dit 100 écrans avant 3 ans, mais ils regardent quand même 20-30 minutes par jour un dessin animé. Mais on essaye moins possible d'utiliser les écrans. Et c'est vraiment que la télé, pas d'iPad, pas de smartphone, etc.
Bien plus importante en temps. On passe plus de temps à jouer que devant l'écran en famille.
Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident de lutter contre les écrans. Après nous à la maison, c'est vrai qu'on n'a pas de, on n'a pas de télé, on a juste un ordinateur familial, donc on arrive à doser et à gérer les temps de télé. Donc on fait passer tel temps de jeu et puis après
un temps de dessin animé accordé, par exemple. Mais c'est vrai que de toute façon, elles sont quand même demandeuses de ces temps de jeu. Donc, voilà.
Alors, je vais vous faire réagir, mais juste avant cela, je voudrais que vous me citiez, allez, un jeu, chacun et chacune. Céline, un jeu qui vous inspire ?
Moi, à l'image de ce qui a été un petit peu cité, il y a un grand essor des jeux coopératifs et collaboratifs depuis quelques années. Et du coup, un qui déjà date un peu, mais auquel je prends beaucoup de plaisir à jouer, c'est Dixit.
Dixit, un jeu pour Emily ?
Alors moi, je vais tout simplement vous parler du jeu de cache-cache, parce que on le pratique beaucoup à Bateau Bulle et voilà. J'aimerais encore jouer à cache-cache.
Il va qu'un jeu.
Mais actuellement, puisqu'on a parlé des jeux en famille, nous on revient beaucoup en famille sur le jeu du bac, tout simplement. Voilà. C'est simple à mettre en place et ça, c'est toujours efficace.
Alors je vais vous demander une réaction en un mot, parce qu'on est très en retard dans cette émission. Céline, un mot que vous avez retenu dans ce micro-trottoir.
Égalité du jeu entre les participants.
Émilie.
Alors, tout simplement, les parents ont bien dit que finalement, le jeu prend beaucoup de place dans les familles, bien plus que les écrans.
Ça, c'est bien. Et du coup, je vous demande une petite réaction à vous, Yves, avant de vous poser la première question.
Oui, juste sur la notion de jeu coopératif qui se développe. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même garder des jeux d'affrontement aussi qui ont leur intérêt aussi.
Alors, vous allez nous dire quel intérêt dans ces jeux. Yves Vaquet, vous êtes directeur, je le rappelle, de la MJC Grand Champ. Quel intérêt y a-t-il à ces jeux d'affrontement ? On va commencer par ça, tiens.
Les jeux d'affrontement, alors tous les jeux, ça dépend comment on les aborde et comment on amène aussi la réflexion autour de ça. Les jeux coopératifs, c'est intéressant puisqu'on coopère vers un but partagé. Le jeu d'affrontement, c'est intéressant aussi pour à la fois se dépasser soi-même, essayer de gagner, mais dans le sens de gagner. Mais si on gagne, c'est qu'il y a aussi des adversaires qui ont perdu et qu'il faut se respecter mutuellement. C'est ça qui est intéressant, c'est d'aller jusqu'au bout, mais pour gagner le jeu, mais pas pour gagner contre l'adversaire.
Merci de cette précision, c'est intéressant effectivement, et ça sort de ces micro-trottoirs, vos réflexions. Quel type de joueur étiez-vous enfant, puis parent, et puis grand-parent, Yves Vaquet ?
Ben, gamin, il y avait autant les jeux à l'école, dans le quartier, dans la rue, et en famille, c'est ce qui a été entendu souvent. Nous, c'était le dimanche après-midi, c'était les tantes, cousins, et c'était surtout autour des cartes ou du Monopoly. Voilà, c'était, on pouvait être 15, voilà, ça marchait très bien, voilà, dimanche après-midi. D'autant plus qu'on avait classe le samedi, hein, quand on était petit, donc il n'y avait que le dimanche pour jouer en famille. Et ensuite, donc, moi j'ai la culture du jeu parce que j'aime bien, j'ai fait beaucoup de colonies de vacances, de centres aériens, etc. Donc c'est vrai qu'avec mes gamins, ben, on a continué. Eux-mêmes, il y en a qui sont animateurs. Et grands-parents, ben, ça continue aussi. Sauf que ce qui change, c'est effectivement tout ce domaine autour des jeux nouveaux, plus de j'allais dire des produits, c'est pas des produits, mais plus de ressources ludiques, ce qui fait que, et c'est intéressant même pour moi, d'aller sur des terrains que j'aurais jamais pensé aller, même les jeux vidéo, bon voilà, c'est des jeux aussi, c'est sympa, on joue en famille, on rigole, et pourquoi pas.
La notion de produit, vous l'avez dit, vous allez être écarté un petit peu, mais elle est quand même là, dans les jeux que l'on voit souvent, ça va être le numéro 1, après le numéro 2, la suite, etc., type... Je voudrais pas citer, mais Monopoly Paris, puis Montpellier, puis on prend d'autres villes, etc. On développe quand même.
Tout à fait, c'est comme les Trivial Pursuit, junior, senior, ouais. Voilà, et pourquoi pas. Maintenant, après, est-ce que ça épuise l'intérêt du jeu ? Non. Après, il faut bien que les éditeurs vivent aussi, les créateurs de jeux. Voilà. Maintenant, ce sont toujours des bases où il y a de la recherche à faire, il y a des questions à répondre. De toute façon, tous les jeux, ce sont les mêmes réflexes de base, que ce soit des jeux d'adresse ou autres. Voilà. Ce qui s'améliore, c'est le contexte, l'imaginaire, l'histoire concrète, pour renouveler le plaisir et l'intérêt.
Alors, le jeu est-il un des axes importants du projet social de la MJC du Grand Charan, dont vous êtes le directeur ?
Oui, ça traverse toutes nos activités. Fin mars, par exemple, c'était les semaines nationales du compostage. La MJC, elle coordonne 4 sites sur le quartier, Montplaisir, Amblard, Sauce du Charan et Lamartine. On a fait des apéros compost avec les habitants, j'ai amené des jeux, et quand on boit un coup, un petit jeu à côté, et c'est vrai que ça crée, ça délie la parole, on discute, il y avait des enfants, des ados, des adultes, donc c'est un lien qui relie.
Alors, quel type justement de jeu proposez-vous à la MJC, ou quel type de jeu on peut pratiquer dans ce lieu ?
Ben nous, il y a déjà des clubs de jeux. Il y a Katunga qui a été évoqué tout à l'heure par Nadège Bontou. On a aussi un club de poker associatif. On a aussi des dragonnets. Ils sont beaucoup sur les jeux d'aventure, les jeux où on joue des personnages. Et on a aussi, on travaille beaucoup avec les collèges et lycées. Donc on intervient beaucoup entre midi et deux ou le soir. Et là, on est plutôt sur les jeux d'adresse ou les jeux de société, comme on dit, les jeux de plateau.
Oui, des jeux de plateau, effectivement. On va en parler, j'ai une question là-dessus justement, mais je voulais savoir quelles ont été vos motivations pour revenir sur le festival du jeu. Nadège Bantou nous a fait la transition tout à l'heure dans son portrait. Qu'est-ce qui vous a motivé à le créer, ce festival qui vient juste de s'achever?
Alors, le festival, il date de 2006, c'est une biennale. C'était très rapide, c'était une réunion avec la mairie qui avait demandé aux équipements de quartier de proposer un rendez-vous qui soit festif, familial, ouvert à tous, gratuit. Je veux dire l'expérience qu'a rappelé Nadège sur le Grand Charan. J'ai une autre expérience parce que je coordonne les Tulipinades, un festival du jeu dans Mardèche. Et j'ai levé le doigt. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire un festival du jeu? Et tout le monde a dit oui, et c'est parti.
Alors, quelle place il a pris? Parce que j'ai l'impression, pour y être allé, que aujourd'hui c'est quand même le Palais des Congrès. C'était peut-être pas ça au début. C'est beaucoup, beaucoup de monde sur le week-end.
Alors, les deux premières éditions, c'était à la Halle des Sports Chaban-Delmas. Oui. Donc ça fait à peu près 3000 m². Ça nous a bien lancé. Et après, on a dit, il faut aller plus loin parce qu'il y avait un bon retour des habitants. Et donc, on est passé au Parc des Expos. Et on est arrivé au Parc des Expos la dernière année, en 2018, on a tout utilisé, les 8000 m². 2020, Covid, ça a été annulé trois semaines avant.
Forcément.
Et là, on est reparti sur le nouveau. Donc, c'est un palais des expositions. Il fait 6500 m², et là, effectivement, on est sur un étiage de 12 000 personnes sur le week-end.
Vous nous avez parlé tout à l'heure des éditeurs de jeux. Est-ce qu'il y a une sélection qui se fait pour que vous fassiez venir des éditeurs, je ne sais pas, qui ait une certaine éthique ou certaines valeurs, ou pas du tout d'ailleurs, on n'est pas obligé de rentrer là-dedans. Qu'est-ce qui se passe au niveau du choix des éditeurs qui viennent là?
Alors, avant de répondre à ça, simplement, le festival, c'est autant des auteurs qui sont invités, des associations qui participent et des professionnels. Pour les professionnels, le déclic de la relation, c'est vous venez animer, même si vous vendez aussi pour amortir vos frais. Et ça, c'est l'esprit qui est bien rentré. Et souvent, les gens demandent que des tables d'animation, les professionnels, ou alors des tables d'animation et de vente. Et c'est ça, c'est d'abord animer, créer le contact avec les gens qui viennent, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir.
Alors, j'imagine que vous avez rencontré du public, vous avez parlé avec eux lors de ce festival qui s'est achevé, je le rappelle, dimanche. Quelle place gardent les jeux traditionnels? Vous avez parlé de jeux de plateau notamment, face au numérique, face à tous ces écrans qui envahissent nos vies.
Alors, c'est rigolo comme question, parce qu'on avait quand même un stand avec l'association Gamestalgie qui mettait en évidence les jeux vidéo vintage.
Vintage,
et
comme,
bon, et ça a bien marché aussi.
Les Game Boy, quoi.
Voilà.
Notamment.
Mais on n'a jamais opposé, nous, jeux vidéo, jeux... C'est, à mon avis, c'est un faux débat. Voilà. Il faut se faire plaisir. Comment on se fait plaisir? Pourquoi pas? Il ne faut jamais exclure. Par contre, il faut montrer la palette de ce qui existe et des richesses possibles et de se dire que on peut jouer sans que ça coûte cher, ce qu'on disait. On peut faire nous, on a des jeux avec des pierres ou des cailloux, et ça marche très bien. Voilà. Donc, les deux ne sont pas opposables. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de montrer l'actualité de la création des jeux. Maintenant, on citait Antoine Boza dans le micro-trottoir. Il est toujours invité au Festival du jeu, il a fait des signatures. Et tous les auteurs, on avait une trentaine d'auteurs qui essaient de faire partager leur jeu pour roder les règles et ce que ça vaut pour après pouvoir l'éditer. Et en fait, c'est ça. C'est être toujours dans la dynamique de renouveler le plaisir, même si à la base, c'est toujours un jeu, il va falloir tirer des jetons, des pions, gagner une aventure. L'imaginaire change, mais il y a toujours cette envie d'aller plus loin, de se renouveler.
Alors, Yves Vaquet, est-ce que vous trouvez que les adultes, aujourd'hui, ils jouent assez Et je veux dire par là que nos vies professionnelles sont intrusives dans nos vies privées, tous ces réseaux sociaux qui sont là tout le temps. Est-ce que les adultes, ils ont un peu abandonné le jeu, et pourtant le jeu est, et on l'a vu, essentiel dans nos vies, même quand on est adulte d'ailleurs. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on joue moins du coup?
Alors, je ne sais pas de partout, mais il me semble qu'on ne joue pas moins. Si je prends un exemple extrême, par exemple, tout ce qui est autour des chansons, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'amusent à chanter, soi-disant, etc. En famille, ça partage, c'est collectif, ça marche très bien. tout ce qui est jeux de cartes, ça continue, les dominos, ça continue, les jeux de billes, ça continue, et même avec adultes. Voilà, j'ai l'impression que c'est un faux débat. Tout le monde, par exemple, nous, on a un club de pétanque au parc de Lecerre, c'est un jeu, c'est un jeu autant petit que ça, et ça marche. Ils sont, si vous venez le samedi, on peut plus se garer. Voilà. Et, voilà. Ça... et même eux, quand je discute, ils pensent pas ça à jeu, mais ils s'amusent.
Ouais, voilà. Je pense pas jeu, mais ils s'amusent. La MJC, est-ce qu'elle est fréquentée par des enfants seuls? On le voyait tout à l'heure avec Bateau Bulle, c'est plutôt un lieu par enfant. Est-ce que vous, c'est des enfants, des jeunes, j'entends, des ados qui viennent seuls, ou vous proposez des temps par enfant dans cette MJC?
Alors, c'est vrai que, puisqu'on parlait du festival du jeu, on a fait pas mal de soirées par enfant autour du jeu, et qui ont bien marché. Et c'était intéressant, parce qu'on a formé des gamins du centre à Aéré, comme en 10 ans, pour qu'ils deviennent animateurs de jeu. Parce que l'intérêt du jeu, c'est qu'on est tous à égalité. Quel que soit l'âge, l'origine, la catégorie socio-professionnelle, il y a une règle, on a tous nos capacités ou autres, et voilà, on peut être enfant et gagner, on peut être adulte et perdre, etc. Et c'est, on est tous à égalité, c'est ça qui est intéressant. Et le jeu, par essence, il est d'accès gratuit. Bon, il faut acheter un jeu, peut-être, mais voilà, c'est, on est tous là, on découvre, on se fait plaisir. Ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de se dire que le jeu, effectivement, il nous enrichit et surtout, il crée de la civilité. Voilà, il y a des règles à respecter, il y a des gens à respecter, on peut s'exciter, on peut, quand on perd, grogner un peu, mais pourquoi pas, c'est humain. Mais par contre, après, hop, on rigole, on dit, ben là, j'aurais dû faire comme ça, comme ça, comme ça. Voilà, ça facilite la relation avec les gens.
La coopération. Le collectif.
Même à l'affrontement, comme je disais tout à l'heure.
Même l'affrontement.
On peut s'affronter, mais de manière saine, et en disant, voilà, j'ai perdu, t'as gagné, mais on était ensemble, on est à égalité quand même.
Et on essaye de l'accepter, d'ailleurs. C'est pas facile pour certains, même des plus jeunes.
Comme on dit, il faut savoir gagner comme il faut savoir perdre. Et savoir gagner de manière intelligente, c'est pas toujours facile.
Merci, Vaquet, de conclure là-dessus. On va continuer cette émission avec l'agenda des structures.
Parentalité, mon amour, votre magazine traitant de la famille. Un magazine proposé en partenariat avec la CAF de la Drôme et l'UDAF 26.
Rebonjour Agnès Bonin.
Bonjour à tous.
On commence par une info de l'association Enfance et Familles d'Adoption.
Oui, elle vous propose le jeudi 5 mai une conférence à la médiathèque François Mitterrand de Valence à 20h sur la place des origines dans la vie des enfants adoptés et de leurs familles. Et cette conférence sera animée par le docteur Jean Vital de Montléon, qui est pédiatre et anthropologue. Il faudrait vous y inscrire par mail à contact@efa2607.fr.
Alors, le 7 mai, on parlera d'un temps d'échange en ligne. Quelle association est derrière tout ça?
Donc, c'est l'APEDA, l'association de parents et de professionnels pour enfants et adultes en difficulté d'apprentissage, qui vous propose, comme tous les premiers samedis du mois, de 10h à midi, ce temps en ligne pour les personnes qui sont concernées par les troubles 10, dyslexie, dyspraxie, et les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et là encore, il faut mieux s'inscrire au 06 43 44 15 06.
Le samedi 7 mai, de nouveau, on va faire un tour du côté du Centre culturel de Font-Lozier.
Qui vous propose donc à Valence de 9h à 10h, on parlait de jeux aujourd'hui, un atelier cirque parents-enfants pour des enfants de 2 à 5 ans. Ou sinon, à 10h, en parallèle de cet atelier, une animation tout public autour des haïkus, ces petits poèmes japonais qui parlent du sens de la vie. Donc, leur animation s'appelle « Viens lire et écrire des haïkus de printemps ». Vous pouvez vous y inscrire au 09 64 04 85 67.
Du 9 au 20 mai, c'est le retour, je crois, des semaines des familles.
Oui, toutes les années, la ville de Valence, avec ses différents partenaires, les MPT, les MJC, les centres sociaux, propose tout au long de ces deux semaines des différentes activités, des ateliers, des conférences, des pauses café par an autour du thème « Parents un jour, parents tous les jours ». Vous pourrez retrouver plus d'informations sur le site de la ville de Valence, www.valence.fr. Et notamment le samedi 14 mai, tous ces partenaires vous attendent au parc Jean Perdry pour le Family Day qui aura lieu de 11 à 18 heures autour de temps ludique et festif et d'ateliers par enfants. Et sinon, au moment d'un ciné-débat qui aura lieu au Luxe, autour du film Adolescente. C'est un projet donc proposé le 19 mai à 19h avec la CAF et la ville de Valence.
Merci Agnès Bonin. Ce 27e numéro du magazine Parentalité Mon Amour se termine. Merci de nous avoir suivis. Merci à mes invités du jour. Yves Vaquet, directeur de la MJC du Grand Charent, Émilie Vidal et Céline Jacquemont, toutes deux accueillantes à Bateau-Bulle, lieu d'accueil enfants-parents à Nyons. Merci à la CAF de la Drôme et à l'UDAF 26. Merci à Raphaël Terrivillet pour la réalisation de cette émission et merci à Eric Barral pour la technique aujourd'hui. Le prochain numéro aura lieu le mercredi 15 juin. Nous parlerons de séparation avec le parcours séparation mis en place par la CAF. Cette émission a été produite et réalisée dans les studios de Radio Méga à Valence. Elle est multidiffusée sur les radios associatives drômoises Soleil FM, RDIWA, Radio Saint-Ferréol et Radio Royan. Vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur les sites internet de ces radios ainsi que sur radio-mega.com, caf.fr et udaf26.fr. Jusqu'à vous retrouver, n'oubliez pas, jouez. À très bientôt dans Parentalité, mon amour.
On se lève que vite. Comment est-ce que va rendre au vide?
Les ondes buissonnières.
Oui.
Diffusion sauvage.
Les ondes sauvages diffusent.
Non.
Diffusion sonore pour oreilles encrassées.
Non.
Diffusion sauvage pour des oreilles apprivoisées.
Non.
Les ondes buissonnières, diffusion sauvage de sonorités apprivoisées.
Yes.